Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour avec moi-même, Kevin Laramie, présenté par sportsinspired.ca, notre magasin officiel de C'est à ton tour. Bienvenue à cette journée de repos numéro 2. J'espère que vous allez bien. J'espère que les quelques dernières journées ont été plaisantes pour vous comme elles ont été pour moi. On ne s'attendra pas trop longtemps sur l'étape 13 et 14. On est déjà rendu au résumé de l'étape 15 aussi. On ne s'est pas parlé depuis jeudi après-midi, depuis cette arrivée à l'Alpe d'Huez gagnée par Geraint Thomas. Et nous avons fait l'émission rapidement après l'étape numéro 15. Après l'étape numéro 13. Donc nous avons manqué la grande nouvelle du jour qui fut les sprinteurs hors délai. Groenewegen, Greipel, Gaviria, tous hors délai après l'étape 12 à l'Alpe d'Huez. Donc à l'étape 13, il ne restait que vraiment trois vrais purs sprinteurs, quelques coureurs évidemment qui sont très rapides, mais au sprint de l'étape numéro 13, nul autre que Peter Sagan a remporté sa troisième étape du Tour 2018, augmentant son avance sur le maillot vert qui ne se peut perdre. S'il rallie l'arrivée, le contraire me surprendrait beaucoup, étant un des sprinteurs qui traverse les montagnes le plus facilement. C'est quand même incroyable, la diversité et le talent d'un Peter Sagan. On ne réalise pas à quel point on est chanceux de voir un coureur tel Peter Sagan courir présentement devant nous. Peter Sagan, qui est, selon moi, pourrait devenir, je dirais pas le meilleur sprinteur de tous les temps en vitesse pure, mais le sprinteur le plus polyvalent, le coureur le plus polyvalent. Et si ce n'est pas un grand tour, ce n'est pas une course avec une grande ascension hors catégorie ou même catégorie 1 ou 2. C'est vraiment dur de voir Peter Sagan non favori pour gagner une étape. On rappelle, il n'y a pas une classique qu'il ne peut pas gagner, je pense, de Paris-Roubaix à Tour des Flandres, évidemment, les choses comme ça, qu'il est toujours un des favoris. Mais pour revenir à Peter Sagan, qui fut plus rapide que Alexander Christophe de la team UAI, qui est la team Émirats Arabes Unis, et Arnaud Desmar de la FDJ. Et les commentaires de Christophe et Arnaud Desmar nous démontrent à quel point la puissance de Sagan est impressionnante. Desmar qui a mentionné après l'étape, j'étais bien placé, j'avais un beau train, j'étais bien placé à la fin, on s'est retrouvé juste au bon moment. J'étais bien placé, j'ai parti exactement quand je voulais, pas trop tôt, je suis parti quand je voulais. Puis Sagan était plus fort que moi. Christophe dans la même veine aussi, et c'est quand même surprenant à quel point des purs sprinteurs comme les Christophe et les Arnaud Desmar ont peut-être pas la rapidité de pointe d'un Gaviria ou même d'un Greipel. Greipel qui est quand même sur la pente descendante de sa carrière de pur sprinteur, je pourrais dire. C'est impressionnant de voir les Desmar et Christophe parler du kick, comme on pourrait dire, de Peter Sagan et de sa vitesse de pointe, à quel point il est dur à battre. Et Christophe, faudrait lui montrer à bien lancer son vélo et le bien prendre son temps de lancer le vélo au bon moment, d'avoir le bon timing, comme on pourrait dire en bon français, pour lui donner une chance à la victoire. Peter Sagan ne manque jamais un lancement de vélo et a gagné par quelques centimètres cette 13e étape du Tour de France. Maintenant, on va passer rapidement à la 14e étape et la 15e ensuite. On a quelques nouvelle du jour à vous annoncer aussi. Il y a eu une disqualification au Tour de France durant l'étape 15. Mais on y revient dans quelques instants. L'étape 14. Omar Frail de Astana gagne amende devant Julien Alaphilippe, le maillot à poids du Tour de France jusqu'à présent. Le coureur français le plus populaire présentement avec Romain Bardet, évidemment. Mais Julien Alaphilippe qui démontre un certain panache qu'il me fait sourire, qui essaie. Pas le plus grand grimpeur. Il essayait de gagner amende. C'est un qui était quand même fait pour lui. Il est parti peut-être un peu trop tôt. S'il y avait peut-être quelques centaines de mètres de plus, il aurait gagné. Mais Omar Frehley qui a bien fait de suivre Thomas de Gendt et de réussir à gravir la montée Laurent Jalabert de la meilleure façon. Et en premier. Et Omar Frehley termine premier de l'étape numéro 14. Première de deux victoires de suite pour la Astana, devant Julien Alaphilippe et Jasper Stuyven de la Trek Segafredo. Julien Alaphilippe de la Quick-Step, présentement le maillot à poids du Tour de France. On va voir si Julien Alaphilippe pourrait garder son maillot à poids durant les Pyrénées. On va le savoir aussitôt que mardi. Mais pour l'instant, première échappée qui se rend au bout. Le peloton a terminé un 18 minutes derrière Omar Fraile. Il y a eu pas vraiment beaucoup d'attaques durant l'étape 14. Une étape assez tranquille aussi, comme l'étape numéro 13. Une étape de repos un peu pour les prétendants au général. Et qui nous a donné quelques moments intéressants. On a vu les Daniel Martin qui s'essaie quand même tout le temps, pas réussi. Durant l'étape 15, Daniel Martin qui est le seul vraiment du classement général qui s'est vraiment essayé. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas collé. Mais Dan Martin qui nous montre et qui parlait aussi en entrevue après l'étape numéro 15, il fait beau, c'est une belle course. Pourquoi ne pas essayer? Et c'est le plus beau respect que j'ai vu depuis un petit bout pour le Tour. On parle souvent du Tour de France qui est disputé d'une manière très défensive. On n'a qu'à penser à l'équipe Sky qui mène un train d'enfer, qui élimine la majorité des prétendants. On se retrouve avec seulement quelques cyclistes isolés et l'équipe Sky, Geraint Thomas et Egan Bernal et un Chris Froome. Et ensuite, il mène une cadence assez tellement haute qu'il est presque impossible de les dépasser et d'attaquer. Et ils mettent les autres coureurs dans le rouge. Mais au moins voir un Dan Martin aller à l'attaque, à l'offensive. Il sait qu'il n'y avait pas beaucoup de chances que ça marche. Il s'est essayé quand même. Attaquer sur le col du Pic de Nord. Le col du Pic de Nord. Il y avait quelques catégories durant cette étape numéro 15 qui s'est terminée à Carcassonne et qui s'est terminée avec une deuxième victoire de suite pour la Astana. Encore une fois, l'échappée du jour est partie après 40 km. Ce fut un premier 40 km assez effréné. Team Sky ne voulait pas laisser aller plusieurs coureurs qui auraient pu s'avérer dangereux pour gagner quelques minutes durant ce montée du col de Pic de Nord et ensuite terminer en descente jusqu'à Carcassonne. Pour la Team Sky, ils voulaient vraiment choisir cette échappée et ça a pris 40 km pour l'échapper pour finalement trouver un moyen de partir. Il y avait des gros noms, les Bok Mollema et autres. Il y a quand même assez grosse échappée qui s'est rendue assez loin, mais vers la fin, ils étaient trois qui ont parti de l'échappée du jour en descente et ça a maintenu vers Carcassonne. Il y avait Magnus Cort Nielsen de la Astana. Il y avait aussi Bok Mollema et Inzaghi de Bahrain Meridia. Et évidemment, on avait Bok Mollema de la Trek Segafredo. Donc, dans ces trois coureurs, dans l'échappée qui a tenu le plus longtemps, qui s'est rendu jusqu'au bout en premier, le meilleur sprinteur des trois était sans aucun doute le Danois Magnus Cort Nielsen de l'Astana, qui a bien placé, bien joué ses cartes, a pris les devants à 500 mètres et a attendu jusqu'à 200, 250 mètres, a lancé son sprint. Inzaghi et Mollema n'avaient rien à donner dans les jambes pour ce sprint. Victoire facile quand même au sprint pour Magnus Cort Nielsen de la Astana durant cette étape numéro 15. Et je vous dirais, cette étape numéro 15 a commencé quand même assez bizarrement, surtout pour Elie Gesbert. Elie Gesbert, qui est un coureur de la Fortuneo Samsic, qui a été frappé au visage par Gianni Moscon de la Team Sky. Et Gianni Moscon devient une victime de ce tour. Non, pas une victime, il devient disqualifié du tour. La victime, c'est bien Elie Gesbert durant ce temps. Mais Gianni Moscon de l'équipe Sky ne pourra supporter ses deux leaders d'ici la fin du tour. Est-ce que c'est vraiment un grand dommage pour la Team Sky? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions en montagne? Moscon n'étant pas nécessairement le dernier lanceur d'un Geraint Thomas ou d'un Chris Froome. Ce travail appartient à Michael Kwiatkowski ou à Egan Bernal, tout dépendant de l'étape du jour. Mais Gianni Moscon, qui est quand même un lieutenant important en mi-montagne, au début d'une ascension, et un domestique utile qui peut aller chercher les bidons et rapporter cela à ses leaders, on va voir si la Team Sky sera un peu au dépourvu. Mais je ne pense pas que ça va avoir de grandes répercussions sur le travail d'un Thomas ou d'un Froome durant la prochaine semaine, la troisième semaine du Tour de France qui débute ce mardi dans les Pyrénées. Oui, déjà, on a passé le Massif central en étape 14, en étape 15. On prend une journée de repos lundi 23 juillet et de retour mardi à Carcassonne. Ce que j'aime de cette journée de repos, pas de transition, pas de vol, pas de voyagement. On reste à Carcassonne et on part de Carcassonne pour aller à Bagnères-de-Luchon et quelques grimpées intéressantes. On va revenir à la prédiction de l'étape numéro 16 dans un instant. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre échappée se rendre jusqu'au bout? Peut-être, mais on parle ici de 5 ascensions répertoriées pour l'étape de mardi. La côte de Fangeau, qui a lieu à 25 km après le départ de Carcassonne, un 2,4 km à 4,9% de moyenne pour cette ascension de quatrième catégorie, qu'il y a un point au sommet. La côte de Pamiers, qui est à 72 km après le début de l'étape, 2,3 km à 5,8% de moyenne ici pour les coureurs. Ensuite, nous avons le sprint intermédiaire à 124 km après le début de l'étape, Saint-Giron, le sprint intermédiaire. Est-ce que Peter Sagan se lancera dans l'échappée du jour encore pour peut-être aller chercher ce sprint intermédiaire? Il n'y a plus rien qui me surprend. Même s'il n'a plus à aller dans les échappées et à amasser le plus grand nombre de points possible, Peter Sagan est assuré. C'est le Rallye Paris de gagner son sixième maillot vert et d'égaler le record de l'Allemand Eric Zabel, qui est considéré comme un des plus grands sprinteurs, pas nécessairement un sprinteur pur, encore une fois, un des bons coureurs de son temps. Oui, il y a plusieurs astérix à côté de certains noms de ce temps, le sien aussi, mais c'est une réalité du cyclisme en général, et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire par astérisque, mais quand même. Ensuite, on continue l'étape numéro 16 en se lançant vers le col de Portet d'Aspet. 5,4 km à 7,1%, catégorie numéro 2. Il va avoir des points à gagner durant cette étape pour le maillot à poids. Est-ce qu'un Julien Alaphilippe voudra se lancer dans l'échappée du jour encore une fois pour peut-être défendre ses maillots à poids? Il n'aura pas la journée la plus facile lors de le col de Portet durant l'étape numéro 17 qu'on va revenir. L'étape numéro 17, selon moi, pourrait être l'étape reine du tour. Oui, l'étape numéro 12 était fortement appréhendée par les coureurs, surtout par les sprinteurs qui n'ont pas terminé, mais aussi par les coureurs du classement général en étant une des étapes clés de ce Tour de France, gagné, je vous rappelle, par Geraint Thomas avec le maillot jaune, premier Britannique gagné à l'Alpe d'Huez en l'étape numéro 12 et premier maillot jaune gagné à l'étape de l'Alpe d'Huez aussi. Ensuite, après le col de Portet d'Aspet, il y a une petite descente, on s'en va vers le pont de Loul et on va vers la catégorie numéro 1, la première du jour, le col de Manté, 6,9 km d'ascension à un gradient d'une moyenne de 8,1%. Ensuite, le col du Portillon pour terminer les ascensions du jour à 208 km, seulement 10 km de l'arrivée, le sommet. Et ensuite, c'est descendant jusqu'à Bagnères-de-Luchon. On parle ici de 8,3 km à 7,1% pour le col de Portillon, plus longue montée de la journée. Probablement le plus dur col de la journée aussi, catégorie numéro 1, et descente de 10 km jusqu'à Bagnères-de-Luchon, ville phare du Tour de France depuis des années. Il arrive toujours quelque chose lorsque le Tour arrive à Bagnères-de-Luchon. Est-ce qu'on pourrait voir quelques attaques du classement général lors soit du col de Portet d'Aspet ou du col de Portillon? Le col de Portet d'Aspet est trop loin, pas assez dangereux pour moi. Col de Manté, même chose aussi, un petit peu trop loin de l'arrivée, mais ce col du Portillon avec une descente assez périlleuse et compliquée et sinueuse jusqu'à Bagnères-de-Luchon. Est-ce qu'une attaque d'un prétendant au général durant cette étape, surtout durant cette dernière ascension, pourrait être dangereuse? On va voir. Est-ce qu'on va vraiment voir qui est plus fort entre Froome et Thomas durant la 16e étape? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Avant de parler d'étape numéro 17 aussi, je voudrais souhaiter bon rétablissement à Louis Garneau, légende du cyclisme québécois. Si vous connaissez les vélos Garneau, si vous avez suivi l'équipe Europcar durant les quelques dernières années de son existence, vous avez vu les produits Garneau aussi. Garneau qui est des très bons produits de cyclisme. Grosse chute lors d'une balade en groupe pour Louis Garneau. Commotion cérébrale, poumon perforé. Il a quitté l'hôpital dimanche soir. Mais on lui souhaite bon rétablissement pour Louis Garneau, qui est un des noms les plus importants du cyclisme québécois. cyclisme francophone avec les Gervais Rioux, qui est le fondateur de Argon 18 aussi, Louis Garneau, des vélos Garneau, des équipements Garneau. On lui souhaite bon rétablissement avec cette vilaine chute à l'entraînement avec un balade en groupe qui a pris des tournures un peu dramatiques. Bon rétablissement à Louis Garneau. Et je voulais vous mentionner une autre nouvelle qui est quand même, selon moi, assez importante pour la sécurité des coureurs qui a été annoncée durant la journée de dimanche. C'est les fumigènes sont maintenant interdits aux abords du Tour de France si les spectateurs utilisent fumigènes. Désolé, si hein, l'utilisation de fumigènes, les gendarmes prendront les dispositions nécessaires pour empêcher ces fumigènes et pour se débarrasser des coupables aussi, pour ne pas empêcher les cyclistes de pouvoir respirer comme il faut. Et on parle ici d'une chose très dangereuse pour les poumons, dangereux. Peut-être pas normalement en respirant ça, mais si vous le respirez, il y a un petit peu l'odeur d'eau pourrie, les produits chimiques à l'intérieur de ces engins pour faire de la fumée de couleur, c'est pas bon de respirer ça, surtout à l'effort, surtout lorsqu'on est en plein effort, en ascension en montagne, les bronches, nos pores de peau, premièrement, les bronches sont ouvertes à 100% pour absorber tout l'oxygène possible. Prenez une grande respiration et oh! Je peux juste imaginer le sentiment que ça peut vous donner de respirer un fumigène lorsque vous êtes à 100% d'effort dans une montée. Je suis bien content que les organisateurs du Tour et que le gendarme se tournent vers cette problématique et espérons qu'il n'y a pas de fumigène durant cette étape 16, durant l'étape 17, il y en avait durant l'étape 13, 14, 15. On l'a vu durant la montée, la dernière montée du jour, à l'étape 15, qu'il avait la fumigène et ça l'a empêché quelques coureurs de bien respirer. Et c'est une décision qui va de soi, oui, mais pour une fois, une bonne décision qui a été prise. On parlait de l'étape numéro 16 et on va revenir après cette étape mardi après-midi pour un résumé de l'étape numéro 16 et on va parler encore plus de l'étape numéro 17. Mais pour terminer en cette journée de repos, je voulais vous parler un petit peu de mon hypothèse que je me suis fait depuis quelques jours concernant l'étape numéro 17. Cette étape, un peu l'étape de révolution dans le domaine du cyclisme, 65 km seulement, ça part, comme on dit, sur les chapeaux de roue avec... Il n'y a aucun plat durant cette étape. Ça commence avec le col de Péressourde, ça se termine, et ça se termine au col de Portet. Il y a aussi le col de Val-Louron-Azay. C'est trois cols assez difficiles. On parle de 14,9 km à 6,7% pour le col de Péressourde et la montée de Péragoude. On parle du col de Val-Louron-Azay de 7,4 km à 8,3% et le col de Portet, le plus haut sommet du Tour de France à vie. Le plus haut sommet cette année aussi, donc le souvenir Henri Desgranges, 16 km à 8,7%. Et la fin de ce col n'est pas nécessairement asphaltée avec la diligence qu'on pourrait connaître de d'autres routes. Ces routes en mai, lorsque plusieurs personnes ont essayé ce parcours, n'étaient point pavées. Ils ont été pavés depuis, mais d'une manière à garder leur aspect un peu antique. Donc, pas nécessairement un asphalte à 100%, pas partout, et pas une asphalte pure et simple et lisse. Il y a un tunnel aussi durant le col de Portet qui dure environ 400 mètres, un petit peu après 1,6 km de la fin. Est-ce qu'on va voir des coureurs rentrer dans le tunnel et ne pas ressortir? Lorsque j'ai vu quelques vidéos de quelques cyclistes essayer ce parcours, ils rentraient dans le tunnel et on ne voit rien, premièrement. C'est le noir total. Ce ne sera pas le cas durant le Tour de France. Il va y avoir des lumières et les autos, évidemment, les motos auront leur lumière allumée pour éclairer les coureurs. Mais c'était de la boîte, comme on pourrait dire en bon français. C'était de la vase, c'était de la boue et ce n'est pas facile. On va voir des coureurs s'adapter assez rapidement. Mais cette étape aussi a particularité. Les 20 premiers au général, qu'on va regarder dans un instant, les 20 premiers au général vont partir ensemble durant cette étape numéro 20. Donc, techniquement, pas de coéquipier. Je dis techniquement parce que si on regarde le classement général présentement après l'étape numéro 15, nous allons avoir la Team Sky avec un coéquipier. Et selon moi, c'est ça le but de cette étape depuis le début. Le but de la tactique de Team Sky d'avoir deux leaders est pour cette raison. Pour avoir Garen Thomas avec Chris Froome lors du col de portée. Et selon moi, c'est là que ça va jouer. Garen Thomas va rouler pour Chris Froome sur le col de portée. Et si Garen Thomas lâche le col de portée, Froome aura carte blanche pour aller à l'avant. Si Garen Thomas maintient son effort au col de portée et peut même décrocher Froome de sa roue, pas obligé, juste garder cette minute 39 d'avance sur son coéquipier, nous allons voir Garen Thomas gagner le Tour de France. Sur l'étape numéro 17, tout se joue, selon moi. Et regardons présentement le top 20 de ce classement général. Je ne pense pas qu'il va y avoir grand changement durant l'étape 16, à moins d'une grosse attaque à Bagnères-de-Luchon. Et lors de cette dernière descente vers Bagnères-de-Luchon, il y a une ou deux équipes qui pourraient se retrouver dangereuses durant cette étape. Il y a deux coureurs de la Lotto El Jumbo qui pourraient être dangereux. On parle évidemment de Primoz Roglic, qui est quatrième au général présentement, avec Steven Kruijswijk, qui est septième. Ces deux seront ensemble durant cette étape. Et je crois vraiment que c'était le but de la Team Sky et de les autres étapes de mettre au moins deux, trois coureurs, si possible, dans le top 20. Comme ça, vous n'êtes pas isolé à 100%. Regardons ce top 20 pour terminer l'émission. Garen Thomas, premier, 62h49min47s. 1 minute 39 devant Chris Froome en deuxième position. 1 minute 50 devant Tom Dumoulin en troisième. Primoz Roglic, 2 minutes 38 derrière Garen Thomas. Romain Bardet en cinquième, 3 minutes 21 derrière Thomas. Mikel Landa de la Movistar est sixième présentement au général. Steven Kruijswijk, septième. Donc, nous avons deux paires de coéquipiers jusqu'à présent. Team Sky, Garen Thomas, Chris Froome. Lotto NL Jumbo, Primoz Roglic avec Steven Kruijswijk. En huitième position de la Movistar, Nairo Quintana. En neuvième position, Jakob Fuglsang de la Astana Pro Team. Daniel Martin de la Team Emirates en dixième. Valverde de la Movistar en onzième. Donc, nous sommes rendus à trois paires, même, je dirais plus, un trio pour la Movistar. Parce que la Movistar gardait leur effort et leur tactique. Parce que souvent, leur tactique ne marche pas. Là. On ne se le cachera pas. La Movistar est souvent contentée de finir deuxième, troisième, quatrième, peu importe, mais la Movistar n'est jamais prête à sacrifier un podium pour la gagne. Et pour gagner le Tour de France, si vous n'avez pas le maillot jaune en dernière semaine, pour gagner le Tour de France, vous devez être prêt de perdre. Et pour ça, peut-être que durant cette étape numéro 17, avec leur monstre à trois têtes présent dans ce top 20, peut-être qu'on pourrait voir les attaques qu'on s'attendait d'un Landa, d'un Valverde ou d'un Quintana au col de portée. Ensuite, en 12e position, Bob Jungels de la Quick-Step Floors. Il est le seul de la Quick-Step dans le top 20. Inur Zakarin de la Katusha, 13e. Il est le seul aussi. Il est à 10 minutes de retard du leader du Tour de France. Pierre Latour, le maillot blanc du Tour de France jusqu'à présent, de la G2R la mondiale, le français est 14e. Greg Van Avermaet est 15e de la BMC Racing Team, ancien maillot jaune la semaine dernière. Mikel Nieve de la Mitchelton Scott, 16e. Il est le seul représentant de la Mitchelton Scott dans ce top 20. On rappelle que le top 20 part ensemble au début, le reste du peloton derrière eux. Oui, il va y avoir des jonctions, il va y avoir des bons grimpeurs qui vont vouloir aller rejoindre le groupe de leader général à moins d'attaque dès le départ. Et avoir trois de la Movistar là, c'est bizarre, hein? Il y a trois ascensions, il y a trois cols, vous avez trois coureurs. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Moi, je suis la Movistar, c'est... J'y vais. Je suis tapis, j'y vais tout pour le tout, et j'essaye. Sur un col, si ça ne marche pas, j'essaye avec l'autre coureur sur le deuxième col, et si ça ne marche pas, j'essaye avec le troisième coureur sur le col de portée. Ensuite, pour terminer le top 20, Guillaume Martin de la Wanty Group Gobert, 17e au général, Damiano Caruso de la BMC. Donc, nous avons une autre paire de cyclistes ici de la BMC. Oui, c'est pas des coureurs et je dirais c'est plus pas des grimpeurs purs et ce n'est pas nécessairement des leaders au général. en parlant de Van Avermaet ou de Damiano Caruso, mais deux coureurs quand même qui pourraient peut-être trouver un moyen de trouver des alliés de circonstance dans cette journée. Astana Pro Team, Tanel Kangert en 19e position, le lieutenant de Jakob Fuglsang, donc deux de l'Astana dans le top 20. Et pour terminer ce top 20, le français Liliane Calmejean qui cessait de gagner les étapes depuis quelques fois et ça ne marche pas. Terminé top 10 durant l'étape numéro 15. Je pense qu'il va y avoir de la misère sur le col de Portet aussi, mais ce sera intéressant à regarder. Donc c'est ça mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que la Team Sky voulait absolument, et peut-être même qu'il aurait aimé avoir un Egan Bernal là-dedans, mais au moins Thomas et Froome pour que leurs deux co-leaders soient bien placés et ensemble dès le départ. 1-2, boum, et voilà, on est prêt pour toute éventualité, on est prêt pour réagir. Le grand perdant de cette manière de débuter l'étape, je vous dirais, est Tom Dumoulin. Tom Dumoulin sera isolé toute la journée étant troisième. Et il sera beaucoup de travail à faire durant cette étape numéro 17, juste pour garder la roue de Froome, garder la roue de Thomas. Et plus les journées avancent, plus Tom Dumoulin est dangereux. Et quand je dis dangereux, pas nécessairement pour le temps de Geraint Thomas. Si Geraint Thomas ne flanche pas d'ici la fin du tour, 1 minute 50, c'est beaucoup. Mais mettons, là, on parle pour parler ici, là, on jase. Là. Au col de Portet, Geraint Thomas pour Froome, Geraint Thomas explose. Froome se retrouve seul avec Dumoulin. Geraint Thomas perd 2 minutes, se retrouve 4e au général, ou 3e. Et c'est une bataille entre Froome et Dumoulin pour les 4 étapes qui restent. Étape 18, 19, 20, 21. On parle de 3 étapes, là. Rien qui se passe en 21, on s'entend. Si vous êtes pas un sprinteur, et en passant, Sagan va gagner à Paris, là. À moins qu'Arnaud Démare nous montre qu'il a démarré un petit peu plus tôt, peut-être, on va voir. Mais selon moi, si c'est une bataille Froome et Dumoulin, seulement 11 secondes pour Froome. Froome se devra de se départir de Dumoulin. Et Dumoulin n'a qu'à rouler dans la roue. Ou rouler à son propre rythme. Et espérer que c'est assez pour rejoindre le peloton de Froome ou quoi que ce soit. Mais Dumoulin, 11 secondes, il peut prendre 11 secondes sur Froome lors du contre-la-montre. Est-ce qu'il va nous passer comme un Cadel Evans en 2012 et ramasser le maillot jaune seulement en l'étape numéro 20? Peut-être. Ça, c'est mes hypothèses pour la semaine. Mais je pense vraiment que Geraint Thomas est en forme. Si Geraint Thomas passe le col de Portet devant Chris Froome ou sans perdre 1 minute 39, je crois que nous allons voir un nouveau champion du Tour de France. Mais Chris Froome n'a pas dit son dernier mot. Et Chris Froome, on se rappellera très bien de cette ascension au col de Finestre durant le Giro 2018 et à quel point il a surpris tout le monde dans l'étape numéro 19, a pris les devants de la course et n'a jamais regardé en arrière. Une attaque solo, 80 km, a terminé ça seul, boum, dans la poche, le maillot jaune, le maillot rose. Pour celle-ci, est-ce qu'un Froome voudra attaquer premier col de la journée, deuxième col de la journée ou au col de Portet? Est-ce qu'un Froome pourrait attaquer au début du col de Portet et partir et gagner 2-3 minutes sur tout le monde? C'est quand même possible. Et c'est ce que plusieurs coureurs redoutent. Mais écoutez-moi bien. Selon moi, la course se joue l'étape numéro 17, le col de Portet. Ce sera les attaques ou non décisives. Donc, si nous sommes pour avoir un nouveau maillot jaune, si nous sommes pour avoir une équipe battre la Sky, ce sera sur le col de Portet. Encore une fois, merci de nous écouter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramy. Vous pouvez voir notre magnifique magasin officiel de l'émission C'est à ton tour, où vous pouvez vous procurer un magnifique chandail comme celui-ci. Un beau petit chandail avec un beau petit vélo Tour de France et tout. Ben, c'est pas écrit Tour de France, c'est écrit C'est à ton tour. Et il y a un beau vélo avec les couleurs de la France et une belle carte de l'Hexagone. Vous pouvez trouver tout cela au sportsinspired.ca. On se revoit mardi après l'étape numéro 16. Et jusqu'à la prochaine fois, comme c'est maintenant rendu une habitude, ajoutez-moi sur Strava, venez me joindre, on roule à Montréal ensemble sur le circuit Gilles Villeneuve, pourquoi pas? Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes en France ou n'importe où dans la francophonie, Ajoutez-moi aussi, joignez-vous au SPN Cycling Club sur Strava et avalons les kilomètres ensemble. Jusqu'à mardi, je vous souhaite bon vélo.